Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Serrez-vous ce soir autour de moi pour que cette France, une France neuve et saine, grandisse et se fortifie.
Vichy, 24 décembre 1940.
Bientôt, vous verrez luire l'étoile qui guidera votre destin.
Le jour de Noël, Philippe Pétain tient son rôle de chef providentiel, jusqu'à promettre aux Français, dans cette nuit sombre, d'être l'étoile du berger.
Bon Noël, mes enfants, et vive la France!
Mais que s'est-il passé, durant l'entre-deux-guerres, pour que le vieux maréchal Pétain, figure morale, se couvre d'un tel manteau d'orgueil?
Je jure de consacrer toutes mes forces à la patrie, à la famille et au travail.
Nommé maréchal de France en décembre 1918, le prestige de Philippe Pétain n'a cessé de croître. Dès 1920, dans le monde entier, il incarne la grandeur de la France. Le vieux militaire cultive cette image jusqu'à devenir dans les années 30 le grand-père débonnaire de la nation qui prend soin de sa famille. Il est extrêmement populaire et une mécanique du sauveur se met alors en place, presque malgré lui, peut-on dire, mais avec son consentement. Et en 1940, Philippe Pétain se persuade d'avoir raison avant tous les autres. Il est donc crucial de sonder l'entre-deux-guerres pour comprendre la suite.
Ici Vichy, la voix de la France.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le fantôme de Philippe Pétain.
Je veux assurer à mes compatriotes le réconfort des certitudes éternelles.
Troisième épisode, la vanité du maréchal.
C'est moi seul que l'histoire jugera.
Ce troisième épisode débute le 8 décembre 1943.
Station nationale sur onde courte.
Ce jour-là, en fin de matinée, Radio Vichy diffuse un long programme qu'elle a concocté pour ses auditeurs.
Vous allez entendre la diffusion de montage radiophonique réalisé à l'occasion de la 25e année du maréchalat de Philippe Pétain, chef de l'État.
Le maréchalat de Philippe Pétain. La propagande de Vichy ne s'y trompe pas, car à vrai dire, le mythe commence là.
Quand le 11 novembre 1918, à 11h, le feu cessa sur tout le front, parmi tous ceux qui avaient bien mérité de la patrie, la nation plaça tout de suite au premier plan le général Philippe Pétain.
Le 8 décembre, il reçoit le bâton de maréchal, hommage suprême du pays.
Âgé de 63 ans, parvenu au fait des honneurs militaires, auréolé d'une gloire immortelle, décoré des plus hauts ordres étrangers, grand croix de la Légion d'honneur, médaillé militaire, le maréchal prétend un juste repos et à finir sa vie en Provence, où il avait choisi de se retirer.
Il est fait maréchal parce qu'il est le général des armées françaises sur le front français.
Bénédicte Vergès-Chaignon est historienne.
Donc, il est l'incarnation même des combattants français.
Ce bâton des grands capitaines est recouvert de velours bleu roi, marqué aux étoiles d'or. Sur le cercle d'or fixé à l'une des extrémités, on peut lire cette devise latine « Terror belli, decus passis ». À l'autre extrémité, un second cercle d'or porte le nom et la date de promotion du seul survivant des maréchaux de France.
Voilà donc le gamin du Pas-de-Calais, devenu maréchal de France, comme les héros napoléoniens de sa jeunesse, l'égal de Murat, de Ney ou de Masséna. En 1918, Philippe Pétain a 62 ans. À quoi aspire-t-il ?
Si on lit sa correspondance, en principe à prendre sa retraite sur la Côte d'Azur en s'achetant une propriété, et dans les faits, il se tient toujours à la disposition du gouvernement pour faire son devoir et rendre service. Bon, dans un premier temps, ça consiste beaucoup à profiter des bonheurs de cette victoire. Il fait son entrée à Metz. Il voyage dans cette Alsace-Lorraine retrouvée. Et c'est l'aboutissement de ce qui a été le rêve de son adolescence. Et puis, il se trouve encore en fonction de commandant en chef des armées françaises. Après tout, si l'armistice a été conclu, la paix n'est pas encore signée. Et les armées alliées sont supposées continuer à exercer une sorte de pression sur l'Allemagne.
Au début des années 1920, Philippe Pétain est donc commandant en chef des armées françaises et sa célébrité est mondiale. On pourrait penser, en effet, que sa soif de reconnaissance est comblée et qu'il va profiter d'une retraite bien méritée au bord de la Méditerranée. Or, on s'aperçoit très vite qu'il n'est pas prêt de lâcher le manche. Dès 1925, Philippe Pétain règle la guerre du Rif en matant la rébellion marocaine et en discréditant au passage un rival, le maréchal Lyautey. Ensuite,
en France, le temple de la pensée se trouve sous une coupole ayant pour nom Académie française.
Pétain attend maintenant la mort du maréchal Foch dans l'espoir de prendre sa place à l'Académie française.
Il est motivé par un désir de reconnaissance. Il n'y avait pas de la place pour tous les maréchaux de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, au début des années 1920. Donc lui a dû se contenter, dans un premier temps, de l'Académie des sciences morales et politiques. Et puis, il doit attendre la mort du maréchal Foch pour être élu. Alors, sans campagne, sans devoir faire les visites académiques, c'est une élection maréchale, pour le coup.
La tradition, sous forme de tambour, déjà résonne.
Précisons qu'il était coutume que les maréchaux siègent à l'Académie française.
Le récipiendaire prend place sur son banc, au pied de la statue de Bossuet, face à celle de Sully, et sous les regards froids et croisés de Descartes et de Fénelon.
Le point le plus amusant, c'est qu'il va devoir prononcer l'éloge du maréchal Foch avec lequel il a eu de vraies divergences tactiques et stratégiques. Donc, il va se targuer de vouloir rendre un hommage sans être hypocrite. Et puis, il a l'immense chance que celui qui va prononcer son discours de réception, ce n'est pas n'importe qui, c'est Paul Valéry. Je dis une immense chance parce que il y a parmi les académiciens des gens qui sont très oubliés et qui ont été élus pour des raisons qui n'ont pas forcément de rapport avec leur talent littéraire. Là, il a une chance merveilleuse. D'ailleurs, Paul Valéry écrira un très beau texte pour sa réception, c'est ce fameux texte sur le suicide de l'Europe.
Tous vinrent à Verdun comme pour y recevoir je ne sais quelle suprême consécration. Comme s'il eût fallu que toutes les provinces de la patrie eussent participé à un sacrifice d'entre les sacrifices de la guerre, particulièrement sanglant et solennel.
C'est une des raisons pour lesquelles aussi on se souvient de cette élection. Philippe Pétain en est très très conscient. C'est-à-dire que quand il a un petit peu le choix de choisir son récipiendaire, eh bien, il choisit Paul Valéry. Mais ce qui est très très drôle, c'est que dans sa correspondance, on voit qu'il est persuadé qu'il va pouvoir en remontrer en matière de style à Paul Valéry.
Lettre de Philippe Pétain à Charles de Gaulle, 25 juillet 1929. Je vais me remettre à écrire. Je n'y réussissais pas trop mal autrefois. Comme c'est Paul Valéry qui me répondra, je ne serais pas fâché de mettre mon style, dépouillé à vif, en opposition avec le sien, où la pensée disparaît sous l'amoncellement des fioritures.
À l'époque, le capitaine de Gaulle est un des porte-plumes de Philippe Pétain et il y a beaucoup d'estime entre les deux hommes. Élu à l'Académie française en 1929, Philippe Pétain prend goût aux mondanités. Lui, qui était presque dépourvu de réseaux sociaux avant 1914, le voilà friand des sollicitations. Et il se retrouve soudain au carrefour des influences parisiennes.
Un verre de cognac ?
Non, merci, pas avant dîner.
À son poste de vice-président du Conseil supérieur de la guerre, il est vraiment à l'articulation du gouvernement, je devrais dire des gouvernements, hein, puisque nous sommes sous la Troisième République, et de l'armée. C'est-à-dire qu'il est de plein pied avec le monde politique. Il a parmi les hommes politiques des amis, des gens qu'il côtoie, même dans un mode de sociabilité, je ne sais pas, des réceptions,
à vous,
la chasse, des déjeuners, tout ce que nous pouvons imaginer. Et puis, il est courtisé, il est apprécié. C'est quelque chose qui a commencé déjà pendant la Grande Guerre par des écrivains, par des journalistes, par des intellectuels, par des artistes qui souhaitent faire son portrait, son buste, sa statue équestre. Voilà. Il est vraiment un personnage en vue et très intégré dans des réseaux de sociabilité. Il est extrêmement sollicité pour prononcer des discours, participer à des cérémonies où il côtoie éventuellement des célébrités étrangères, des personnalités, des membres de familles royales européennes.
Ce qu'on entend dans ce que vous racontez, c'est qu'en fait, il fait un peu office de reine d'Angleterre. C'est-à-dire qu'il est à la fois illustre, il participe à des voyages officiels au nom de la France, on l'envoie pour des obsèques, par exemple. Il a presque un rôle officiel, Philippe Pétain, au début des années 30.
Il fait figure de substitut de membres de famille royale. Il est alors ce que la France a de plus prestigieux pour participer à des cérémonies officielles en France et à l'étranger. Il va être bien un peu la vitrine de la France, un peu partout en Europe. Il y rencontre d'autres militaires de haut rang, d'autres personnalités politiques, à commencer, mais entre autres, Mussolini, Göring, voilà. Et il se figure de ce fait qu'il a acquis une expérience politique et diplomatique, sans se rendre compte que tout ça est en fait très superficiel et ne ressemble en rien à de vrais entretiens diplomatiques, pour ne rien dire de négociations.
Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Messieurs les ministres, Général Pershing, Mesdames, Messieurs.
Discours à Montfaucon, 1937.
Devant ce monument du souvenir, près du cimetière qui contient le plus grand nombre de leurs tombes, en ma qualité d'ancien chef de l'armée française, j'adresse aux anciens combattants américains le plus haut témoignage de la reconnaissance et de l'admiration des anciens combattants français.
Ce soir, le 6 février.
L'extrême droite annonce des manifestations aux côtés des anciens combattants des Croix de Feu et des Ligues fascistes. On parle même de mouvements de l'armée autour de la capitale.
Non, l'armée ne bougera pas.
La date du 6 février 1934 a profondément marqué la vie politique française. Minée par les divisions politiques et plombée par la crise économique, le régime est fragile. Et ce jour-là, dans Paris, a lieu une énième manifestation anti-parlementaire.
On se retrouve tous ce soir au point fixé à 18h30, place de la Concorde. Il faut des attaques très rapides, très violentes et un repli immédiat.
Devant la Chambre des députés, tous rêvent d'un pouvoir fort, comme en Allemagne ou en Italie. Et place de la Concorde, on crie « Les députés, on les pendra !» Le rassemblement tourne à l'émeute, les factieux affrontent la police.
Demandez le journal ! Demandez le journal !
L'action française du sexe. Je suis dans le métier, hein, jamais vu ça. Édition sur édition, les typos arrêtent pas. Les gens, ils sont comme fous.
Le sang à la une, c'est la meilleure recette. Ça fait vendre.
Bilan, entre 15 et 30 morts. La République vacille, la guerre civile menace.
Par décision du gouvernement, tout rassemblement sur la voie publique est désormais interdit.
Et dès le lendemain, le gouvernement d'Aladier démissionne.
Le pouvoir est à prendre.
Le 9 février 1934, Gaston Doumergue, ancien président de la République, est appelé à la rescousse.
On a fait appel à moi pour essayer de constituer un gouvernement d'entente et de concorde. J'ai répondu à cet appel.
Après la crise du 6 février 1934, on forme un gouvernement d'union nationale, bien sûr, on s'adresse pour détenir le portefeuille de la guerre au maréchal Pétain. C'est une évidence pour tout le monde. Là encore, il se fait un peu tirer l'oreille, puis il accepte en disant qu'il se sent en fait investi de la confiance des anciens combattants.
Depuis que Daladier a démissionné, on se sent tout de même mieux. Il y a encore des manifestations, des bagarres, presque tous les soirs.
Mais ça, c'est les rouges, ça. Mais Gaston Doumergue va y mettre bon ordre. On peut compter sur lui, le Gastounet. Tenez, la première chose qu'il a faite dans son cabinet, c'était de prendre Laval et le maréchal Pétain.
Pétain ? C'est une vieille lune.
Qu'est-ce que vous racontez ? Il nous a sauvés à Verdun, le maréchal. Puis je vais vous dire, il nous sauvera encore.
Alors, avec quelle ambition Philippe Pétain investit ce ministère de la guerre ?
Alors, il s'agit... Là, il poursuit ses objectifs du début des années 30 de garantir le réarmement français.
Olivier Dard est historien.
La grande inquiétude de Pétain, c'est d'une part que l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne risque de briser une fois pour toutes toute la dimension pacifique de la diplomatie française, premier élément. Deuxième élément, que faire face à une diplomatie allemande qui risque d'être agressive ? Eh bien, ne faudrait-il pas redémarrer le réarmement français ? Et c'est là où est l'enjeu, parce que je rappelle qu'au début des années 30, la situation des finances publiques est difficile, qu'on est engagé dans des politiques de déflation, et que par conséquent, vouloir développer l'outil militaire à un moment où les finances se portent assez mal, pose problème. Alors, le maréchal Pétain va prendre un certain nombre d'initiatives pour essayer de faire avancer des projets qui sont déjà anciens pour lui en matière de réarmement, sans d'ailleurs déboucher sur des résultats véritablement tangibles. Mais ce qu'il obtient avec d'autres, c'est qu'il refuse, malgré tout, toute discussion directe avec l'Allemagne. Il refuse une solution diplomatique, il veut une option militaire et une option de réarmement français.
À l'intérieur, Doumergue prône l'assainissement financier et la réforme de la Constitution. Il voudrait que le président du Conseil ait le droit de dissoudre la Chambre des députés et que le Parlement perde l'initiative des dépenses. Mais les ministres radicaux s'opposent à ces projets de révision constitutionnelle. En novembre 1934, le président Doumergue repart pour Tournefeuille.
Il va rester 9 mois, ministre de la guerre dans le gouvernement de Doumergue. 9 mois, c'est la première et unique expérience ministérielle de Philippe Pétain avant le mois de mai 1940. Dans quel état d'esprit sort-il de cette expérience ?
Il sort de cette expérience frustré et dépité. De ce moment, il prend l'habitude de dire qu'il hait la politique et les politiciens. Je pense qu'il a détesté constater son impuissance et qu'il a mesuré, comme beaucoup de Français, la sclérose de ce système politique, mais sans savoir comment le surmonter. Et en même temps, il est un petit peu tenté de continuer à peser. Et c'est aussi le moment où, sans doute instruit par ses faiblesses lorsqu'il était au gouvernement, il a l'envie de se documenter un petit peu sur les mécanismes constitutionnels, sur le droit du travail après les grèves de 1936, et de commencer à avoir un petit entourage politique, lui qui n'a toujours fonctionné qu'avec des états-majors d'officiers.
qu'est-ce qu'il reproche à ce moment-là à la Troisième République? Il dit « je hais la politique et les politiciens ». Qu'est-ce qu'il leur reproche à ce moment-là en 34, 35, 36?
Je crois qu'il leur reproche ce que leur reprochent beaucoup de Français à l'époque. C'est-à-dire, au fond, de ne pas avoir fait ce qu'ils avaient promis de faire, c'est-à-dire la réforme de l'État. Et ce grand projet de réforme de l'État qui avait porté Doumer, qui avait porté les associations d'anciens combattants, que portaient les droites, ce qu'on a appelé la réforme Doumer ou la réformette, n'a absolument pas débouché sur un renforcement de l'exécutif tel qu'il était attendu, un renouvellement de la représentation, etc., etc. Et là, on est reparti dans, effectivement, le triomphe d'une république parlementaire qui, évidemment, ulcère Philippe Pétain, mais n'est pas le seul.
Tout ce que nous avons fait de grand a procédé de la qualité de nos sentiments et de notre sens des réalités. Et ce ne serait pas en nous éloignant des principes d'ordre que nous préparerions les générations futures aux difficultés de l'avenir.
Au tournant des années 30, on sent que ces pensées se politisent, même se radicalisent un peu. Comment vous l'expliquez, ce basculement chez Philippe Pétain ?
Ce basculement tient à un déplacement de ses centres d'intérêt. Réfléchissant au risque de révolution, en clair de subversion communiste, il s'intéresse de plus en plus à l'instruction publique / éducation nationale, puisque c'est le moment où le ministère change de nom, en disant qu'au fond, l'école doit former des citoyens qui deviendront des soldats. Et que si elle échoue à cette tâche, eh bien c'est la faute des instituteurs qui sont des pacifistes, voire des antimilitaristes.
Le lundi 3 décembre 1934, à l'occasion du 14e banquet annuel de la Revue des Deux Mondes, le directeur, M. René Doumic, secrétaire perpétuel de l'Académie française, invite le maréchal Pétain à prendre la parole.
Le point capital de cette politique est l'action sur la jeunesse, par le resserrement des liens entre l'école et l'armée. Cadres scolaires et cadres militaires ont en effet une mission commune. Développer la valeur physique, tromper les cœurs, forger les volontés. Mais tandis que l'armée forme des soldats, instruments éventuels de la défense du sol, le corps enseignant prépare les citoyens, artisans permanents de la grandeur du pays.
Les abeilles ne piquent pas, Yukali, Yuka. Les abeilles ne piquent pas, Yukali, la magistrat.
Son intérêt pour cette formation de citoyens soldats tient aussi au fait qu'il a dû accepter, quand il était à la tête de l'armée puis comme ministre, la réduction du nombre d'années du service militaire français et constater que l'armée est de moins en moins professionnelle et bien préparée.
Présenter l'arme est le plus beau geste du soldat. Il ne le fait que pour rendre hommage à un chef. Saluer le drapeau. Le courage ou la mort.
Parce que on ressent dans ces cadres eh bien, les trous énormes creusés par les décès de la Première Guerre mondiale.
La France est ma patrie. Je l'aime comme j'aime mon père et ma mère. Afin de lui prouver mon amour, je veux maintenant être un enfant laborieux. Pour être, quand je serai grand, un bon citoyen et un brave soldat.
Jean-Louis, ça va? Tu écoutes un peu?
Quand on lit cette correspondance de 1935-36 de Philippe Pétain, on s'aperçoit que naissent les prémices d'une idéologie. En tout cas, il redoute que la jeunesse soit détournée, c'est le mot qu'il emploie, détournée par le pacifisme des maîtres d'école. Qu'est-ce que ça veut dire, Olivier Dard ?
Ça veut dire que, si vous voulez, il existe en France un pacifisme tout au long de l'entre-deux-guerres, un pacifisme qui est globalement marqué à gauche. parmi les pacifistes, on trouve effectivement le syndicat des instituteurs qui est aux premières loges de la défense de cette idéologie pacifiste. Et pour Pétain, c'est absolument inacceptable. Ça, c'est un premier point. Simplement, et là, la chronologie compte. C'est que si jusque vers 1934, 1935, ce pacifisme, il est globalement à gauche. Et si par conséquent, les droites, elles, défendent une politique de fermeté vis-à-vis de l'Allemagne, un réajustement des lignes politiques est en train de s'opérer lorsque une partie de la gauche, au nom de l'antifascisme, est en train d'abandonner ce pacifisme. Alors ça, Pétain ne le sent pas forcément, évidemment, au départ, tandis qu'une partie des droites, elle, va refuser toute perspective d'alliance avec l'Union soviétique, le pacte franco-soviétique, etc., etc. Donc la question du pacifisme est en train de polluer littéralement le débat politique français, et Pétain, lui, effectivement, vient de ce courant, alors là, effectivement, plutôt conservateur, hostile au pacifisme et partisan de la fermeté vis-à-vis de l'Allemagne. Et les instituteurs, évidemment, pourquoi ? Parce que ils se préoccupent de la jeunesse, et ils se préoccupent en particulier de ce qu'il appelle le redressement moral de la nation.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le redressement moral de la nation, c'est insuffler à ces jeunes générations un sentiment patriotique qui ferait défaut. Et s'il fait défaut, c'est parce qu'ils en seraient privés par des mauvais maîtres. Et on retrouve cette querelle des mauvais maîtres qu'on va toujours retrouver à la libération, au moment de l'épuration. On va accuser évidemment les partisans de Vichy, notamment Maurras, d'avoir été un mauvais maître. Mais la formule mauvais maître, elle est intéressante parce que elle avait déjà été appliquée à Gide précédemment. Hein. C'est un classique, j'allais dire, du vocabulaire français de l'entre-deux-guerres.
Pour bien saisir la complexité du dossier Pétain, revenons un instant au banquet de la Revue des Deux Mondes en décembre 1934. Le vieux maréchal y a tenu son discours sur l'instruction de la jeunesse. Une vision traditionnelle, on dirait aujourd'hui réactionnaire. Il voulait faire des enfants des soldats pour défendre la patrie. A priori, sur le modèle des jeunesses fascistes et hitlériennes.
Warte auf mich an.
Fertig. Feuer.
Or, officiellement en 1934, ce n'était pas l'ambition affichée par Philippe Pétain.
En Italie, c'est le gouvernement fasciste qui, non content d'amorcer dès l'école l'apprentissage de la discipline militaire, proclame sa volonté d'assurer aux citoyens l'éducation et de donner à cette éducation un caractère guerrier. En Allemagne, c'est l'hitlérisme qui exerce sur la jeunesse la même emprise. Inculque à la nation le culte de la guerre. Les forts du suffrage de l'université entraînent le pays dans les voies d'un racisme exalté.
En 1934, donc, Pétain dénonçait le racisme du nazisme et il refusait en public l'endoctrinement fasciste de la jeunesse.
Ainsi se déroulent sous nos yeux les plus grandes tentatives d'éducation étatiste de l'histoire. Rassurez-vous, ce n'est pas à cette forme d'éducation que je veux vous amener.
Dès lors, on comprend bien que les Français n'aient pas vu en lui, à ce moment-là, un dictateur en puissance. Même si, à l'époque, on sent aussi déjà poindre chez lui une obsession pour la France, à savoir le redressement national. Faut-il y voir les prémices d'une doctrine ?
Ce serait beaucoup trop dire que c'est une doctrine. C'est tout d'abord un état d'esprit qui est partagé par beaucoup de Français qui voient que le système politique patine, que la France est en train de perdre les positions avantageuses qu'elle avait acquises par sa victoire, par son sacrifice de 1918, et que elle se trouve dans une Europe menaçante, déséquilibrée, avec une alliance boiteuse avec la Grande-Bretagne qui passe pour n'avoir à l'esprit que ses intérêts particuliers. Donc il y a une aspiration de Philippe Pétain, mais comme de beaucoup de Français, à autre chose. Mais dans le cas de Philippe Pétain, autre chose, c'est quoi ? Parce que il faut que nous soyons bien conscients, et ça aura une très grande importance à partir de 1940, que ce n'est pas quelqu'un qui connaît le droit constitutionnel, les mécanismes par lesquels fonctionne un gouvernement, comment se fait l'exercice de l'État. Lui, son expérience, c'est celle des états-majors. C'est très différent du pouvoir civil. Et donc, il s'informe, il se documente sur ce qui pourrait être possible. Il n'a pas arrêté un choix pour tel type de gouvernement. Il ne milite pas pour un gouvernement autoritaire. Il faut aussi, sans être méprisante, rappeler qu'il ne rajeunit pas. C'est-à-dire que dans cette deuxième moitié des années 30, il atteint 80 ans. Sa capacité de travail, sa plasticité intellectuelle vont quand même en s'amenuisant. Il en est conscient, et comme chacun d'entre nous, il ne veut pas non plus l'admettre.
Le gouvernement de Front populaire est constitué.
En mai 1936, les élections législatives conduisent Léon Blum et le Front populaire jusqu'au gouvernement. Et dans l'élan de cette élection, naissent un peu partout en France de grands mouvements de grève avec l'espoir d'amélioration sociale. Deux millions de grévistes en lutte contre le patronat. Qu'en pense Philippe Pétain ?
Discours du maréchal Pétain à Saint-Quentin, 4 octobre 1936. À l'heure actuelle, l'air est lourd de menaces. Les esprits s'échauffent. On parle trop couramment de guerre intérieure. Comme si les problèmes sociaux qui divisent la France, si complexes soient-ils, ne pouvaient être réglés autrement que par une lutte fratricide.
C'est vraiment ça, l'espoir.
Ouais. Nous allons avec espoir vers des temps difficiles.
Pétain, où est-ce qu'il se situe dans la seconde moitié des années 30? Il est quelque part entre l'Académie française, évidemment, dont il est issu. Il va d'ailleurs voter pour la candidature de Charles Maurras, quand Maurras va être élu en 38, mais il n'est évidemment pas le seul. Il ne fait d'ailleurs pas une campagne particulière pour Maurras à ce moment-là. Il est très investi dans la Revue des Deux Mondes, qui est la revue, la grande revue conservatrice. Et c'est d'ailleurs dans la Revue des Deux Mondes que Pétain publie, j'allais dire, ses seuls textes, hein, sur l'éducation, etc. Il fréquente un cercle qui s'appelle le Cercle des Affinités Françaises, bon, où il croise effectivement un certain nombre de figures des droites, hein, des intellectuels de droite ou de la presse de droite de l'époque. Mais, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui est mêlé spécialement à une sociabilité intellectuelle, journalistique. Encore une fois, là où Pétain a ses entrées, incontestablement, c'est dans l'armée. Et pendant ces années 30, naît, après la naissance du Front populaire, naît un mouvement qu'on a appelé la Cagoule, ce comité secret d'action révolutionnaire. Bon, une organisation terroriste d'extrême droite.
Votre organisation, la Cagoule, a une force, une autorité que nous apprécions, nous autres fascistes, en Italie.
L'Italie nous a montré l'exemple, monsieur l'ambassadeur.
C'est amusant, ce terme, la cagoule. La cagoule, les cagoulards. Ce sont des mots qui font peur, mystérieux.
Je rappelle que le nom cagoule est donné à cette organisation sur un mode dérisoire par l'Action française, qui ne participe pas à ça. Et la cagoule, du côté des civils, accueille les éléments les plus radicaux de toutes les ligues.
Il suffit de faire tomber le gouvernement, de descendre dans la rue et de montrer notre force.
Des dissidents de l'Action française, des dissidents des Croix de Feu, des dissidents... Bon. Mais à côté de cette cagoule des civils, il y a ce qu'on a appelé la cagoule militaire, les réseaux Corvignol. Et au sein de ces réseaux Corvignol, il y a un homme qui est un homme de l'état-major Pétain, c'est Loustano Lacaux, Georges Loustano Lacaux. Après, on a pu expliquer que Pétain avait quasiment tiré la ficelle de la cagoule militaire, etc. Ça me paraît tout à fait exagéré. Pétain devait savoir des choses, il avait ses informateurs, mais il n'a jamais été question pour lui de de s'engager dans une telle affaire et de devenir, au fond, un militaire de pronunciamiento. Pétain n'est pas un militaire de pronunciamiento. C'est pas Franco.
Un militaire de pronunciamiento, c'est un putschiste. C'est celui qui fait un coup d'État. Pétain n'en a pas la vocation en 1936. Il est légaliste, il respecte la loi. Ce sera un peu différent 4 ans plus tard. Mais alors, dans quel état d'esprit est-il à la veille de la Seconde Guerre mondiale? Quel regard porte-t-il sur la Troisième République durant la seconde moitié des années 30?
Il pense que ce régime va amener la France à la catastrophe. Et cela doit être combiné avec sa certitude qu'il va y avoir une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Nous ne devons pas oublier que Philippe Pétain est quelqu'un d'un tempérament très pessimiste. Bizarrement, c'est ce qui a fait sa force pendant la Grande Guerre, en lui donnant de la lucidité et du réalisme. Mais là, ce pessimisme, bon, sur lequel on ne peut pas lui donner entièrement tort, puisqu'il y aura bien une guerre avec l'Allemagne quelques années plus tard, l'amène effectivement à une condamnation radicale du système politique et du personnel de la Troisième République. Condamnation radicale qu'il garde néanmoins pour lui-même ou ses proches. Ce n'est pas quelque chose qu'il exprime publiquement dans des interviews, dans des écrits.
Remerciements à l'Académie française pour le grand honneur qu'elle vient de me faire.
Charles Maurras, 1938.
On s'étonne quelquefois que un polémiste veuille pénétrer dans une assemblée aussi sereine que l'Académie française. Mais la pratique constante de cette compagnie a été d'admettre chez elle tous les genres littéraires comme toutes les doctrines politiques.
Une des grandes figures des années 30, Olivier Dard de l'extrême droite, c'est Charles Maurras, évidemment, et son Action française. Est-ce qu'on sait ce que pense Charles Maurras de Philippe Pétain?
Alors, on sait surtout ce que pense Maurras de Philippe Pétain après. C'est-à-dire après 40, quand Maurras, au fond, va effectivement célébrer la figure de Philippe Pétain comme le sauveur, celui qui a mis fin à cette Troisième République, etc. Mais Maurras va projeter sur le maréchal Pétain un certain nombre d'idées qui ne sont pas forcément celles du maréchal. Quand on lit le programme de Pétain revu par Maurras dans l'Action française, Maurras explique que c'est le sien. Et c'est là où on pourrait tout à fait en discuter. Sur la question de l'antisémitisme, etc. Oui, ça c'est sûr. Mais il y a tout le reste. Il y a la question de la monarchie. Pétain n'a jamais été monarchiste, etc. Et tout ça, évidemment, pour l'Action française, c'est absolument essentiel. Donc, va y avoir un jeu de fascination en 40 ou après 40, avant 40. Le maréchal Pétain et Maurras se connaissent, mais je dirais que ça ne va pas plus loin. Ils évoluent dans des univers quand même très différents.
Ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de reconstituer une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable, cohérent et autant que possible se rapportant à toutes les grandes forces du passé.
À partir du milieu des années 30, Philippe Pétain n'exerce plus de poste à responsabilité. Il est retraité. Quelle image ont les Français du maréchal Pétain sur la seconde moitié de ces années 30?
Les Français conservent tous une très bonne image du maréchal Pétain, justement parce qu'il est leur représentant tellement digne, tellement mesuré, tellement apprécié sur la scène internationale. En fait, on parle toujours de lui avec des synonymes. Il reste le vainqueur de Verdun, il reste celui qu'on appelle le plus humain des chefs. Et les autres maréchaux disparaissant au fil des années hein, pour des questions d'âge, et bien de plus en plus, quand on dit le maréchal, c'est lui, c'est Philippe Pétain. Donc oui, il jouit d'une très bonne réputation, y compris à gauche, puisque on le considère comme un républicain, contrairement à beaucoup d'autres officiers supérieurs, comme un homme de devoir, comme un homme de confiance.
Et dans ce pays très fracturé, en réalité, la gauche et la droite sont extrêmement opposés dans ces années 30, est-ce qu'il ne fait pas aussi figure d'un symbole d'union nationale dans un pays très déchiré ?
Il est un évident symbole d'union nationale, comme on l'a vu lors de l'appel qui a été fait à lui de manière évidente en 1934, lors de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et dans les années qui suivent, il y a toutes sortes de campagnes, mini-sondages, hein, les sondages n'existent pas encore, sur... non pas les personnalités préférées des Français, mais celles qui pourraient être un recours si tout allait mal et à qui pourrait-on confier le gouvernement. Donc il arrive souvent en tête. Voilà, il est en fond d'écran pour toute cette question pour les Français, effectivement, à tel point que au printemps de 1939, quand arrive le moment de réélire un président de la République, il y a même une campagne de plus qui s'amorce pour en faire le président de la République dans ce contexte de tension internationale particulièrement vif, puisqu'on sort de la crise de Munich qui a eu lieu au début de l'automne 1938 et on est en train de marcher à la guerre. Enfin, personne n'est devin, mais quand même, c'est assez clair.
En 1938, Hitler a annexé de force les Sudètes en Tchécoslovaquie.
C'est l'heure, le discours de Munich est annoncé.
Ah ben on s'en fiche du discours.
Non, non, il arrive.
Et quoi qu'ils disent, hein, n'aie pas peur. C'est comme au cirque, il n'y a pas de danger.
On court à la guerre, mais pour l'instant, on fait semblant.
Attendu par sa femme et ses enfants, Chamberlain atterrit à Londres. Ce matin, j'ai eu une autre entrevue avec le chancelier Hitler. Et voilà le document qui porte son nom à côté du mien. Nous pensons que cet accord est symbolique de la volonté de nos deux peuples de trouver une paix durable et de ne plus faire la guerre.
Pour bien comprendre la puissance du prestige de Philippe Pétain à l'époque, on peut imaginez que Philippe Pétain soit mort en 1938, 1939, et dans ces cas-là, Bénédicte Vergé-Chaignon, nous serions peut-être allés au lycée Philippe Pétain, nous aurions eu des avenues Philippe Pétain en France, des statues équestres de Philippe Pétain. Il aurait été ça aujourd'hui encore, sans doute.
Mais exactement, de toute façon, il était prévu qu'il soit inhumé à Douaumont, au milieu des combattants de Verdun, il y aurait dû y avoir une statue équestre. Et bien entendu que vous et moi, nos auditeurs, nous habiterions éventuellement boulevard ou avenue du Maréchal Pétain. Et d'ailleurs, il y a déjà quelques rues qui existent de son vivant. Et bien entendu, ça ne choque personne.
Le maréchal Pétain part en Espagne comme ambassadeur de la France. Puisque Léon Bérard, ancien ministre, qui l'avait précédé à Burgos comme envoyé extraordinaire, veut bien, pour nos auditeurs, parler de la mission qu'a acceptée, malgré son grand âge, le magnifique soldat admiré et respecté dans le monde entier.
Monsieur Édouard Daladier a tenu la conduite d'un homme d'État. Le jour où il a carrément annoncé à la Chambre qu'il ne s'y attendait pas, la résolution qu'il avait prise de reconnaître déjuré le gouvernement de Burgos. Le choix de l'ambassadeur a splendidement conféré à cet acte toute sa portée.
Avec quelle mission et pour quelle raison envoie-t-on Philippe Pétain à Madrid comme ambassadeur de France ?
Nous sommes au printemps 1939, la guerre civile espagnole s'achève par la victoire du camp nationaliste, avec lesquels la France a entretenu les plus mauvais rapports. Les relations sont exécrables et dans la crainte d'un rapprochement de l'Espagne franquiste avec l'Italie et l'Allemagne en cas de guerre, ce qui provoquerait l'ouverture d'un troisième front sur la frontière pyrénéenne, il paraît essentiel de se réconcilier. Et donc, le gouvernement français souhaite faire un geste de bonne volonté spectaculaire en envoyant auprès de Franco le plus prestigieux des Français, le maréchal Pétain. Le voici en Espagne, en butte à l'hostilité à peine polie de Franco et de son gouvernement. Eh bien, il va y remédier d'abord en se multipliant en relations publiques personnelles. C'est un pays dévasté par la guerre, misérable, et dans lequel il distribue et fait distribuer vivres, cigarettes et médicaments, bon, à petite échelle quand même. Et puis aussi, il va entamer là un de ces processus qui est amené dans la suite de sa vie à connaître de nouveaux épisodes de négociations diplomatiques du faible au fort, lui étant toujours le faible et le partenaire adversaire étant toujours le fort auquel il cède tout. Et donc, chaque demande du gouvernement espagnol de récupérer ce qui avait été mis à l'abri en France par les républicains espagnols. Il acquiesce, il joue de son autorité, il fait pression sur le gouvernement français pour l'obtenir et en échange, il n'obtient rien. Ce qu'il croit obtenir, c'est la neutralité espagnole, mais qui n'est pas le résultat de cette négociation, mais de l'état désespéré de l'Espagne à ce moment-là, qui de toute façon l'empêcherait de participer à une guerre aux côtés de l'Allemagne et l'Italie.
Ça, c'est important parce que dans cette manière de faire de Philippe Pétain, on aperçoit déjà un peu la suite, parce qu'il croit être un très bon diplomate, il croit savoir négocier. En réalité, il vous dit très bien, il négocie du faible au fort. Donc, il donne beaucoup de garanties, de gages pour montrer sa bonne volonté, et à chaque fois, il perd. Et donc, il rentre, lui, persuadé d'être un très grand diplomate.
Oui, et c'est ça, probablement, le point le plus important de cette ambassade en Espagne. C'est cette croyance erronée qu'il a obtenue la neutralité espagnole grâce à ses talents diplomatiques. Et évidemment, cette croyance erronée va lui jouer à lui-même de très fâcheux tours par la suite et malheureusement en jouer de pire encore aux Français.
Propagande de Vichy, 1943.
C'est 1939. Il faut rétablir en Espagne notre situation diplomatique dangereusement compromise par des fautes criminelles. Le maréchal est nommé ambassadeur auprès du gouvernement espagnol. En l'accueillant, le général Franco lui dit
« Monsieur le maréchal, je ne sais pas ce que la France vous a chargé de nous apporter, mais elle ne pouvait nous le faire apporter plus magnifiquement. »
Comment est-ce que vous expliquez qu'à la fin de ces années 30, le maréchal Pétain soit aussi populaire dans toutes les couches de la société française?
Je pense que son âge y fait, le symbole de Verdun y fait, et le symbole de la France victorieuse à laquelle il est associé y fait beaucoup. Et le maréchal Pétain présente en même temps, de par sa prestance, de par à la fois ses discours mesurés hein, et ses silences. Au fond, on n'est pas du tout en présence d'un militaire forcément très typé. Hein. Je disais tout à l'heure, c'est pas du tout un militaire de pronunciamiento, et c'est quelqu'un qui, par conséquent, rassure. Et qui va, effectivement, en 1940, pouvoir endosser à la fois du point de vue de ceux qui vont l'appeler au pouvoir, à commencer par Paul Reynaud, le rôle, au fond, de quelqu'un qui rassure, qui pourrait éventuellement être à la fois un expert, un homme qui rassure et donc légitimer le gouvernement en place. Et je pense que c'est ce que cherche Reynaud. Et Pétain, lui, va se voir comme un sauveur.
Vous diriez que c'est une haute figure morale ?
Il est considéré comme tel, oui. Il est considéré comme tel. Est-ce que c'est lui-même qui a construit sa légitimité autour de cela ? Pour une part, puisqu'il a accepté les fonctions qui lui ont été confiées. Mais plus intéressant sans doute pour nous, c'est de bien avoir à l'esprit que les gouvernements successifs, et de ce point de vue, j'ai envie de dire, je laisse de côté les communistes, mais qui n'étaient pas au gouvernement, mais les responsables politiques des partis de gouvernement, comme on dirait aujourd'hui, ont à un moment ou à un autre utilisé, ont sollicité le maréchal Pétain, qui est même devenu au milieu des années 30 ministre.
Vous connaissez très bien l'histoire de l'extrême droite en France dans l'entre-deux-guerres, Olivier Dard. Est-ce que vous diriez que Philippe Pétain était d'extrême droite dans les années 30 ?
Non. Il fait partie de ce monde, effectivement, de l'Union nationale. Mais il n'est pas un factieux. Il n'aspire pas, à ce moment-là, encore une fois, à renverser le régime. Il est, je l'ai dit, plutôt prudent, toujours, plutôt légaliste. Il n'attend pas forcément son heure, mais il aime bien les honneurs. C'est pas incompatible. Et finalement, je crois que ce qui va faire basculer le destin de Philippe Pétain, c'est évidemment mai-juin 40, et ce destin qui va être le sien, une fois qu'il a été appelé par Reynaud, et qu'il va évidemment être celui qui, refusant d'être le syndic de faillite de la défaite, va devenir le chef de l'État français.
Bonsoir, mon ami.
Annie Pétain connaissait bien son époux.
Tu as deux petits défauts bien pardonnables l'un et l'autre, mais qui unis peuvent faire le plus grand tort à un homme de ton âge. Tu es vaniteux et tu aimes trop le pouvoir, Philippe.
Est-ce que, pour finir, Bénédicte Vergès-Chaignon, est-ce que vous diriez que un des moteurs de Philippe Pétain durant l'entre-deux-guerres, ce fut sa vanité ?
Oui, c'est une vanité qu'on peut excuser en partie à cause de tout ce que on dit de lui et tout ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que beaucoup, pour des raisons d'intérêt ou par politesse, sont toujours en train de le flatter et, au fond, de contribuer à le renforcer dans son idée qu'il fait toujours bien, mieux que les autres, et que surtout, quand ça va mal, c'est à lui qu'on fait appel et qu'il fait l'effort et il réussit là où d'autres échoueraient.
Il s'en persuade.
Il s'en persuade et, ma foi, d'autres s'en persuadent autour de lui ou veulent penser qu'il pourrait être utile à leur propre dessein.
En conclusion de ce troisième épisode, il faut redire combien Philippe Pétain fut une figure rassurante pour les Français des années 30. Il incarnait à la fois la victoire et l'union nationale dans un pays au bord de la guerre civile. Déchiré par les divisions, la société française était fragile. De son côté, convaincu que le Front populaire a corrompu la France et que le pays s'oriente dans une mauvaise direction, le maréchal Pétain choisit alors de s'entourer de courtisans férocement opposés à l'héritage de la Révolution française. Ainsi, sûr de sa popularité, après la débâcle, à l'été 1940...
Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français.
Philippe Pétain va décider d'abolir la République.
En conséquence, nous décrétons l'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.
Philippe Pétain, l'anti-républicain, c'est l'horizon du prochain épisode. Le fantôme de Philippe Pétain. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Charles Berling. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Frédéric Martin. Documentation sonore, Isabelle Fort-Rendu et Romain Couturier. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Le Fossoyeur de la République. Le fantôme de Philippe Pétain est un podcast original de France Inter.
Poursuivez l'enquête de Philippe Collin avec son livre « Le fantôme de Philippe Pétain ». Enrichi d'images d'archives, 12 interviews d'historiens nous dévoilent un peu plus ce personnage si controversé. « Le fantôme de Philippe Pétain » par Philippe Collin, un livre France Inter.